Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Prévence, nous sommes Ella et Yann et nous allons vous parler de l'addiction à l'alcool chez les jeunes. Nous recevons aujourd'hui Isabelle Dominger, consultante en addictologie et animatrice de prévention à Addiction France. Nous sommes également en présence de l'infirmière de notre lycée, Madame Mazière, qui pourra intervenir si elle pense qu'il y a des points sur lesquels il faut appuyer en particulier. Bonjour Isabelle Dominger, pouvez-vous présenter brièvement votre structure ? Quelles sont vos missions et en quoi consiste votre travail ?
Bonjour. Alors, au niveau de la structure, donc c'est l'association Addiction France qui a changé de nom il y a quelques temps, ça fait à peu près 3 ans. Avant, on était plutôt connue sous le nom de l'AMPA. En gros, au niveau de l'association, on aide et on accompagne toute personne qui va rencontrer une difficulté avec une addiction. Alors, ça peut être addiction à un produit, les plus connus, alcool, tabac, cannabis, héroïne, cocaïne, médicaments, hallucinogènes, il y en a plein. Ça peut être aussi également une addiction comportementale. Là, ça peut parler peut-être à pas mal de personnes. Alors, sans être dans l'addiction, heureusement, mais tout ce qui est téléphone, écran, jeux vidéo, l'addiction aussi aux jeux d'argent et de hasard, tout ce qui peut être nourriture, les achats compulsifs, le sport, le sexe, le travail. Il y a beaucoup de choses. Nous, on a en fait plusieurs missions. Moi, du coup, j'en ai plusieurs également. On propose en fait des soins, des gens qu'on reçoit en consultation et on les aide à atteindre leurs objectifs. On ne va pas imposer à quelqu'un d'arrêter quelque chose qu'il ne souhaite pas. On va l'accompagner, soit pour juste des informations, soit pour l'aider à diminuer la consommation de quelque chose ou carrément aider à arrêter. Ça, c'est vraiment le volet soins. On reçoit gratuitement les gens. Et pour les jeunes, il y a des consultations jeunes consommateurs de 12 à 25 ans qui, en plus, sont anonymes. Ce qui est dit dans l'entretien, ça ne sort pas de l'entretien. Et on a du coup l'autre volet que j'ai, le volet prévention, où on intervient auprès de différents publics pour faire des actions de prévention sous forme de jeux et d'ateliers pour aider les gens à faire des choix éclairés pour leur santé. Voilà en très gros.
D'accord. Et dans le cadre de l'alcoolisme, de notre émission, donc, qu'est-ce que la maladie alcoolique ou l'alcoolisme mondain ?
Alors, de façon générale, la maladie alcoolique, en fait, c'est le fait de plus pouvoir se passer du produit, de l'alcool, de façon répétée. C'est vraiment d'être en incapacité de résister à la consommation d'alcool, d'avoir l'alcool qui prend vraiment une place assez envahissante en fait dans notre vie quotidienne, au point d'avoir des conséquences quand même assez importantes dans la vie de tous les jours, pas qu'au niveau physique. On pense souvent, tiens, il y a des conséquences physiques, ça peut être aussi sur le relationnel, le psychologique, l'aspect judiciaire. Ça coûte de l'argent aussi, ça peut être ça. Ça peut poser des soucis dans le travail et la scolarité. L'alcoolisme mondain, c'est un tout petit peu plus spécifique. En fait, c'est la consommation problématique d'alcool lors d'occasions qui vont être plutôt festives. Alors là, on en connaît tous, hein. Ça peut être des anniversaires, soirée d'intégration, un pot de départ, l'été, tout simplement. Ça peut être aussi un moment où on se dit, tiens, allez, il fait chaud, un petit barbecue, et on peut se dire, tiens, l'alcool qui l'accompagne. Ça peut être plein de choses, mais c'est souvent vraiment voilà, à l'occasion de fête, et c'est vécu souvent de façon conviviale. Le problème, c'est qu'en fait, elle peut s'installer de façon assez insidieuse. On s'en rend pas forcément compte au départ. On se dit, ouais, voilà, un petit verre, ça fait pas de mal, j'ai le bien mérité, il fait chaud, on peut toujours se trouver des excuses, entre guillemets. Mais malheureusement, la régularité des consommations, elle peut s'installer, et il y a un effet d'accoutumance, de tolérance qui peut apparaître. Parce que l'alcool, bah, ça désinhibe, ça rend joyeux, on se sent davantage dans l'ambiance d'une soirée, et il peut y avoir du coup une baisse de vigilance.
Selon vous, quels sont les principaux éléments déclencheurs du processus de l'alcoolisme ? Et plus précisément, quelles sont les raisons majeures qui poussent le plus souvent un jeune à boire de l'alcool jusqu'à arriver à une dépendance ?
Alors, il y a plusieurs choses. En termes de facteurs de risque, on peut noter que déjà les habitudes familiales, les habitudes de vie, ça peut être les potes, ça peut être la famille, le contexte, tout ça, ça peut jouer dans la consommation, ça peut avoir une influence. Et on peut aussi voir que l'accessibilité du produit, l'alcool, c'est facile de s'en procurer. Hein. Même si on est mineur, des fois, les alcooliers, ou par exemple dans certains supermarchés, même si légalement, ils ne sont pas censés nous en vendre ou en tout cas demander la carte d'identité hein, pour vérifier si on est majeur, on peut toujours trouver un moyen de s'en procurer. Donc voilà, ça déjà, ça joue. Après, il y a aussi le produit en lui-même qui a des effets particuliers qui lui sont associés. On ne va pas tous réagir de la même façon, mais rien que ça, en fait, le produit, des fois, ça va nous parler parce qu'on a une vulnérabilité, on va dire. Donc ça déjà, ça peut également être un élément déclencheur. Il y a après nos facteurs de vulnérabilité individuelle au niveau physique, psychologique, biologique, héréditaire, événements de vie. Des fois, les habitudes de famille, hein, ou les parents, ou pas les parents, hein, mais au sein de la famille. Bon, allez, il y avait un petit verre à chaque repas. Je dis pas que c'est méchant, mais ça met en tout cas l'habitude de consommation dans notre vie au quotidien. Après, bon, on est dans une région où en plus, bah, l'alcool a une place, le vin notamment, on fait des bons vins, hein, mais ça a une place quand même assez importante. Et puis je dirais en France, il y a l'aspect culturel également. Après, souvent ce qu'on constate, c'est qu'il y a des fois de la consommation d'alcool qui devient problématique quand on a vécu, ce que je disais tout à l'heure, des événements de vie qui sont des fois lourds à vivre. Et on peut voir l'alcool comme un échappatoire. Par rapport aux jeunes, de façon plus spécifique, il y a le paramètre de l'âge qui est vraiment à prendre en compte. En fait, le cerveau, il termine de se développer à peu près vers nos 25 ans environ. La partie du cerveau qui est sur le devant, en fait, qui gère le raisonnement, la logique, on appelle ça le cortex préfrontal, en fait, ce cortex, il n'est pas mature. Par contre, derrière notre cerveau, on a le système limbique qui, lui, va gérer les émotions, qui est à l'adolescence, quand on est jeune, qui est bien, bien développé. Et le problème, en fait, c'est que tout ce qui est la notion de prise de conscience, prise de risque, qu'on a tous, eh ben, en fait, elle n'est pas du tout développée de la même façon à l'adolescence qu'à l'âge adulte. Et puis l'adolescence, c'est aussi un moment où bah, on sort de l'enfance, on passe à l'âge adulte, on se cherche, on se teste. On a aussi besoin de validation sociale, de sentiment d'appartenance à un groupe, et l'influence des autres va avoir quand même un impact assez fort sur nos consommations d'alcool. Et tout ça fait que, eh ben, à l'âge où voilà, on est jeune, on est plus vulnérable et ça peut être un petit peu plus compliqué, du coup, quand on se retrouve face aux produits.
Et si je peux me permettre, je suis complètement d'accord. Simplement, je voudrais rajouter que, en fait, plus on commence la consommation d'alcool jeune, et plus il y a de risques ensuite qu'il y ait une dépendance à l'alcool. Et ça a été démontré avec des études. Et justement, par ce que vous disiez, par le fait aussi que le cerveau, tout le système nerveux n'est pas fini, en fait. Du coup, comme si l'alcool, finalement, s'intégrait au système et devenait, qu'il y avait une dépendance qui se créait chez les jeunes plus facilement.
D'accord. Et donc, après nous avoir expliqué le processus, comment peut-on se rendre compte qu'on est alcoolique ou alors qu'une personne de notre entourage l'est ?
Alors, il y a plusieurs critères qui déterminent s'il y a une dépendance. Les plus importants, les principaux, on va dire que déjà, la personne ou nous, on va pas pouvoir dire non à l'envie de consommer. Et ça, de façon répétée, c'est pas juste une fois. Hein. Ça va vraiment être quelque chose qui va être plus fort que nous. Je ne vais pas pouvoir me dire, bah tiens, allez, je repousse à ce soir, à demain, à la semaine prochaine. Il va me le falloir là tout de suite. Vraiment de façon répétée. Ça, c'est le premier critère. Après, on va avoir tendance à augmenter la quantité d'alcool consommée et puis la régularité. Sans forcément que ce soit tous les jours. Mais il y a quand même cette question de régularité. Hein. Alors, pourquoi on augmente aussi la quantité ? C'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, le corps peut développer une tolérance au produit. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que les effets que moi je trouvais sympas du début, où je rigolais, j'étais bien, bah, mon corps il va s'habituer à ça. Et pour avoir à nouveau ces mêmes effets sympas, bah, je vais être obligée d'augmenter la quantité. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir des conséquences dans notre vie de tous les jours, physique, psychologique, judiciaire, financière, etc. Je vais continuer mes consommations. Ça, c'est l'avant-dernier critère. Je vais continuer mes consommations malgré tous les problèmes que j'ai. Et le dernier critère, c'est souvent, pour l'alcool notamment, il va y avoir un syndrome de manque si je n'ai pas, mon produit. Alors après, par contre, il y a quand même différents types d'addictions. Il y a l'addiction physique. Là, comme vous le disiez du coup tout à l'heure, quand on va en fait commencer le produit, ça va enclencher dans le cerveau, et le cerveau adolescent, on va dire, est plus sensible à ça, mais ça va enclencher le système, le circuit de la récompense, libération de dopamine. Le corps, le cerveau, il est pas bête, c'était sympa l'alcool que tu m'as donné, ça m'a mis bien, ben, je vais avoir envie d'en ravoir, donc vas-y, redonne-moi. Le cerveau, en gros, il va fonctionner comme ça, et ça, on va pas le maîtriser. Il y a la dépendance psychologique, ça c'est lié à l'effet que nous on trouve sympa que le produit nous apporte. Pour l'alcool, ça peut être, bah tiens, je parle plus facilement, j'aborde plus les autres, je suis peut-être plus joyeuse. On peut tous trouver un effet sympa hein, que les produits nous apportent. Et le dernier, du coup, ça va être la dépendance comportementale. Là, c'est lié aux habitudes de vie.
Et selon vous, parce que là on parle beaucoup de phénomènes, de symptômes, etc.
Ouais.
Mais il est compliqué de se rendre compte quand on est jeune. À partir de quand, selon vous, on peut considérer qu'on consomme de l'alcool trop souvent ?
Je vais plomber à l'ambiance. En fait, on dit quand même maintenant, parce que les messages de santé ont changé, ont évolué, mais on dit en fait maintenant qu'il n'y a aucune consommation d'alcool qui est sans danger. Alors on a l'Organisme Mondial pour la Santé qui a édité des recommandations générales il y a quelques années, qui disent que normalement, ce qui est maximum conseillé, c'est 2 verres standards par jour, et pas tous les jours. que ce soit pour hommes et pour femmes. Mais je dirais, ça reste quand même très général, ça ne convient pas à tout le monde et à toutes les situations, tout dépend de si on a des soucis de santé ou pas, en fonction de nos histoires de vie, etc. Mais je dirais, le trop pour l'un aussi, bah, c'est peut-être pas le trop pour quelqu'un d'autre. L'important, ce qui va être un des repères, ça va être l'idée de perte de maîtrise, perte de contrôle, en fait, de la consommation. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, des fois, sont persuadées qu'elles gèrent et qu'elles contrôlent leur consommation, qu'elles s'arrêtent quand elles veulent, alors que c'est pas le cas. Il peut y avoir une forme de déni. Alors le déni, c'est humain, hein, c'est une forme de protection. C'est qu'on n'est pas prêt à voir, on n'a pas envie de voir, parce que ça peut être trop douloureux, parce que il n'y a pas forcément, on n'est pas prêt à se remettre en question, ça s'entend. Moi, je dirais que, pour ma part, c'est vraiment, j'insiste sur, c'est le produit qui prend vraiment beaucoup de place dans notre vie. C'est surtout ça qui va être un bon indicateur. Et puis aussi, peut-être, changement de comportement. Ça peut être ça.
Et donc, quels sont les symptômes, en fait, de l'alcoolisme ?
Alors, il y a certaines personnes qui vont être, par exemple, marquées physiquement au niveau corporel. Hein, ça peut être au niveau du teint. On peut le voir des fois pour certaines personnes. Il peut y avoir le teint rouge, un petit peu de couperet, vous savez, les petites veines là, un petit peu apparentes. Ça peut être des poches aussi sous les yeux. Ça peut être, par exemple, de la sueur. Hein, on sue de l'alcool. Hein, ça, c'est normal. L'alcool, il est éliminé à 95% par le foie. Tout le reste, ça part dans les urines, la transpiration et la laine, 5% du coup. Mais ça m'est déjà arrivé, moi, de croiser des fois dans les transports en commun des gens qui vont sentir vraiment l'alcool. On peut se dire qu'il y a peut-être un souci à ce niveau-là. Par contre, on est inégaux, hein. Ça, ce ne sera pas tout le monde. On ne le voit pas forcément non plus, par exemple, au niveau du comportement, mais ça peut être ça. Il peut y avoir des gens qui vont être agressifs, enfin, ça dépend. On peut dire qu'il y a des gens où ils ont l'alcool joyeux, d'autres l'alcool dépressif, d'autres l'alcool agressif, ça dépend. Après, il y a une autre idée, il y a le manque d'alcool. Là, par contre, aussi, qui peut se voir, notamment dans le cadre d'un arrêt brutal de la substance. On ne va pas le voir systématiquement, hein, tout le monde n'aura pas ce manque-là, mais ça peut se voir par exemple, de la sueur, des tremblements, notamment au niveau des mains. Ça peut être un mal-être assez important, de l'irritabilité aussi, qui peut être difficile à vivre pour la personne et pour l'entourage. C'est important surtout de dire que l'alcool, c'est le seul produit où on manque. On peut en mourir. Parce que le corps, comme vous disiez, hein, Madame Mazière, le corps, il va s'habituer à ça. Et si on retire d'un coup le produit, pour certaines personnes, ça on le maîtrise pas, mais le corps ne retrouvera pas le fonctionnement qu'il avait avant, et il y a des organes qui malheureusement peuvent lâcher. Et on appelle ça le délirium tremens, c'est un terme scientifique, mais tout le monde ne l'aura pas, mais c'est un risque. Et ça, c'est malheureusement assez méconnu.
Et c'est des symptômes très graves, oui. Effectivement. Hein,
mais qui nécessitent une hospitalisation, une prise en charge.
Tout à fait. Et c'est très impressionnant.
Quels sont les effets de cette addiction, en particulier chez les jeunes, les effets immédiats et les effets à plus long terme ensuite ?
Alors, je dirais que les effets immédiats, déjà, comme l'alcool, c'est un produit psychoactif. Donc, psychoactif, c'est qui altère, qui modifie notre état de conscience et puis la façon dont on se comporte aussi. Il va y avoir cette modification comportementale. Alors, en joyeux, en moins joyeux, en dépressif, ça, comme je disais, ça dépend vraiment de chacun. Il va y avoir aussi une modification en termes de repères. Spatiaux, temporaux. Je vais peut-être avoir l'impression qu'il y a un objet ou une personne qui est proche de moi alors que ce ne sera pas le cas ou qui, au contraire, est loin de moi, ce ne sera pas le cas. Et on va avoir également la modification des réflexes. Ils vont être quand même sacrément ralentis. Bon, je pense qu'un des effets à court terme qui est connu, notamment dans le cadre de l'ivresse, c'est « je ne marche pas droit ». Il peut y avoir tout ça. On peut ne pas se rendre compte aussi, enfin, moins entendre certains sons, voire moins bien certaines couleurs. Pour certaines personnes, ça va dépendre. Et puis, il y a des risques, hein, risques routiers, risques sexuels, ce qu'on appelle les conduites ordaliques. Ça peut être, je prends des risques et je joue un peu, entre guillemets, avec la mort. Je vais aller marcher sur le pont, je vais aller dans le vide. Il peut y avoir ce genre de comportement, je dirais, là, dans l'immédiat. À plus long terme, on peut retrouver aussi un petit peu tout ça, cette modification de comportement. Mais globalement, ça va être des soucis de santé, modification des comportements, comme je disais, puis aggravation des problèmes en tout genre, ceux que j'ai cités du coup un peu avant.
D'accord, et donc suite à tous ces effets et cette maladie, donc, oui. À quelles autres addictions cela peut-il mener ?
Alors, quand on évoque ce sujet-là, je pense que c'est important de dire que, de faire attention à ne pas être dans la théorie de l'escalade. La théorie de l'escalade, c'est, il y a cette consommation, il y a un produit. Alors pas pour l'alcool, mais il y a eu un spot qui a été diffusé, pas très longtemps, mais où on parlait du cannabis, et où c'était, attention, cannabis, il y a la déscolarisation, il y a ci, il y a ça, ça peut arriver. Mais où, le petit message de fin, je l'ai plus forcément en tête mot pour mot, mais où c'était, attention, votre jeune, en gros, consomme du cannabis, forcément il va aller vers autre chose. Non, Ça, c'est la théorie de l'escalade. Et moi, personnellement, en tout cas, je trouve qu'elle est un petit peu dangereuse. C'est pas parce qu'on consomme ou qu'on a accès à un produit que forcément, il y aura consommation des autres. Par contre, effectivement, ça arrive que certaines personnes aient une polyconsommation. Ça va être, par exemple, ça peut être avec du cannabis. Tiens, je suis en fait, on parlait tout à l'heure de l'alcool mondain, alcool festif. Bah tiens, je suis en fait, on me propose un petit joint. Et bah tiens, je vais consommer avec mon joint. Ça peut être aussi, on va développer des habitudes de consommation où on va associer l'alcool à autre chose. Ça peut être, par exemple, aux écrans. Ça peut être, tiens, les jeux d'argent. Je suis au bistrot du coin, je suis au bar. Ah bah tiens, pendant que je me bois une bière ou autre chose, peu importe, eh bah, je vais gratter un jeu, je vais jouer au loto, à tout ce que vous voulez. Ça peut être ça, par exemple. Mais ça peut être des médicaments, ça peut être beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'évoquais l'addiction comportementale. Ça, c'est vraiment lié aux habitudes de vie, à mon sens. C'est l'addiction la plus compliquée. Pourquoi ? Parce que tous, on est bourré d'habitudes, bonnes ou mauvaises, hein. Mais c'est quelque chose qui va nous rassurer. Et du coup, de se détacher de ça, de les changer, de les modifier, bah des fois ça peut être un petit peu compliqué.
Effectivement, je dirais que la polyconsommation, le fait de consommer plusieurs produits, c'est plus lié à la personne et à une fragilité ou à, en tout cas un besoin de peut-être d'échappatoire qu'au produit lui-même en fait.
Tout à fait, ouais.
Vous y avez déjà un petit peu répondu à la question précédente, mais on va réappuyer sur cette question. Est-ce vraiment l'addiction qui mène à une autre selon vous, ou vraiment c'est un problème qui est plus profond chez la personne ?
Bah justement, alors, pile poil ce qu'on évoquait, c'est vraiment plus profond. Dans la problématique de l'addiction, le vrai problème, et là je suis d'accord avec vous Madame Mazière, pour moi, c'est pas le produit en lui-même. Le vrai problème, c'est ce que nous apporte le produit, c'est les bénéfices, c'est pourquoi en fait on consomme. Souvent, comme vous le disiez, il y a des traumas de vie qui sont plus ou moins importants. Mais si on ne travaille pas sur ces traumas de vie, si on n'essaye pas de les régler ou en tout cas de les dépasser, le risque de rechute ou de basculement vers une autre addiction, une autre dépendance, il est grand, voire même, sans parler de basculer d'une addiction à une autre, hein, de compenser, mais il y a un risque en tout cas qu'on ne règle pas le problème et qu'il ressurgisse à un moment donné. Voilà, si on n'a pas réglé en tout cas ce pourquoi on consomme. On évoquait tout à l'heure, bah tiens, besoin d'oublier quelque chose, ma vie je trouve qu'elle est pourrie, il n'y a rien qui va, bah tiens, je vais poser le cerveau et penser à autre chose, je vais me griller mon petit joint ou me défoncer dans l'alcool. Ouais, sur le coup, oui, peut-être qu'effectivement ça va nous faire oublier les problèmes, mais sur le coup. Parce que dans la durée, ce qui fait que pourquoi on va consommer, bah en fait c'est toujours là, et des fois même les problèmes ils se sont aggravés à cause de la consommation.
D'accord. Et donc, concernant cette maladie alcoolique, pour s'en sortir, quelles sont les solutions qui sont généralement proposées ?
Alors là, il y a plusieurs solutions qui sont possibles, mais je dirais le plus important, c'est surtout que c'est à la personne de se saisir de ça. C'est à elle de voir déjà si elle a envie, en fait, parce que tout le monde n'a pas forcément l'envie. C'est vrai que des fois, nous, un peu en tant que soignants, on se dit « bah oui, mais c'est pas bon pour la santé, ce serait mieux s'il n'y avait pas ». Oui, mais l'important, c'est déjà que la personne, elle veuille en tout cas changer peut-être son comportement, sans forcément arrêter, mais peut-être réduire déjà les risques liés à la consommation. Il peut y avoir plusieurs solutions, mais tout ne va pas convenir à tout le monde. Il faut vraiment que ce soit individualisé. Certaines personnes, elles auront besoin, par exemple, de consultations par un ou plusieurs professionnels de santé. Ça peut être des médecins, des infirmiers, psychologues, pour, par exemple, entamer un travail sur l'estime de soi, parce que souvent, ça, c'est quand même pas bien terrible. Ça peut être un travers social aussi. Il y a d'autres personnes qui, par exemple, auront besoin d'aller en cure, en hospitalisation. Comme je disais tout à l'heure, je pense que changer ses habitudes de vie, ça va être assez important. Alors, ça peut passer par faire du tri dans ses fréquentations, dans les lieux aussi où on a l'habitude de se rendre. Moi, il y a quelques années, je travaillais dans un centre hospitalier, dans un autre département, et j'ai un monsieur, enfin, on a un usager qui, du coup, est venu. Lui, il a changé carrément d'amis, de logement, de travail et de garde-robe. Je dis pas qu'il faut faire ça, mais ça peut être, par exemple, une des solutions. Après, il peut y avoir plein d'autres petites choses. Ça peut être, bah tiens, essayer de repousser le moment où on a envie de boire. Pas forcément de une heure, hein. Ça peut être de quelques dizaines de minutes. Et au fur et à mesure, on augmente. À un moment donné, on peut peut-être supprimer un ou deux verres. Ça peut être ça. Ça peut être essayer des boissons non alcoolisées, faire des activités pour s'occuper la tête, le corps. Ça peut être diminuer les quantités, trouver d'autres sources de plaisir, entre guillemets, plus saines. Se retrouver soi-même, travailler, comme je disais, sur l'estime de soi. Il y a plein de petites choses qui peuvent être travaillées, mises en place, mais faut vraiment trouver ce qui nous convient à nous.
Après, je dirais que effectivement, toutes ces solutions pour essayer d'arrêter ou en tout cas de diminuer sa consommation peuvent marcher. Mais effectivement, je crois que le plus difficile, c'est de sortir du déni par rapport à sa propre consommation, parce que c'est souvent ça en fait qui bloque. Et moi, pour avoir parfois travaillé auprès de personnes qui étaient dans des addictions comme ça, même s'ils font des cures, même s'ils sont suivis, même si voilà. Parfois, on s'aperçoit que malgré, au bout de plusieurs mois ou d'années, ils sont toujours dans une forme de déni, en fait. Et du coup, c'est très compliqué d'avancer. Mais effectivement, il y a quand même des solutions. Et à partir du moment où on prend conscience qu'on a un vrai problème, eh bien là, on peut avancer, effectivement.
Et puis, oui, voilà, c'est faire pour soi, pas pour les autres. Parce que des fois, on est un peu poussé par l'entourage. L'entourage, alors le plus ou moins proche hein, ou éloigné, mais ça peut fonctionner. Mais il y a quand même des risques assez importants que ça ne fonctionne pas, qu'il y ait rechute, qu'on bascule vers autre chose.
C'est pour ça que parfois, il faut changer d'amis.
Oui, c'est ça.
Plus particulièrement ici, dans la Nièvre, où on sait qu'on est on a peu accès à beaucoup de choses, à beaucoup de traitements, à beaucoup de cures. Quels sont les moyens mis en place? À qui peut s'adresser une jeune victime ou un témoin de cette addiction?
Alors, il y a plusieurs niveaux d'aide, mais déjà, en parler, effectivement, ça reste, en tout cas, à mon sens, très important. Parler du mal-être qu'on peut avoir, l'entourage, tout simplement, peut, alors en fonction de l'entourage qu'on a, on ne choisit pas, mais l'entourage peut déjà être une aide. Ça peut être aussi, par exemple, au sein de l'établissement scolaire, l'infirmière scolaire, le CPE, ça peut être un enseignant, par exemple, un adulte en qui on peut avoir confiance, quelqu'un à qui on peut se livrer. Ça peut être aussi un rendez-vous chez une personne formée aux addictions. Alors nous, au niveau de la Nièvre, par exemple, et au niveau d'Addiction France, on a les consultations jeunes consommateurs, comme je vous disais. Elles sont gratuites, c'est anonyme, on est tous soumis au secret professionnel, et surtout, on n'est pas dans le jugement. Moi, ça m'est déjà arrivé, même. J'ai des personnes qui font du deal, hein. J'ai pas à le dire, je suis pas la justice. Et qu'on soit bien d'accord, hein, je les applaudis pas, je dis pas « youpi, c'est bien », non. Mais je n'ai pas à révéler ça. Ça reste vraiment dans la consultation. Donc, ça peut être ça. Après, il y a d'autres structures, par exemple la maison des ados aussi, où il y a des professionnels qui peuvent être à l'écoute. On a le centre pour ados au Auchan, on a le centre médico-psychologique de l'enfant et de l'adolescent, il y a l'unité rapide d'intervention et de crise pour les ados de la Nièvre, qui s'appelle l'URICAN. Il y a plusieurs structures, plusieurs professionnels, alors dédiés spécifiquement ou un peu moins spécifiquement aux addictions, mais ça peut être ça, par exemple. Il y a aussi, alors là, c'est plus sur Internet, mais les promeneurs du net aussi, hein, qui peuvent être disponibles, où on peut discuter sur chat avec des professionnels dans ma lettre, par exemple. Voilà.
Pour finir, comment, à notre échelle, on peut faire prendre conscience, parce que vous nous parliez du déni tout à l'heure, donc comment peut-on faire prendre conscience à quelqu'un qu'il est victime d'addiction et que, par conséquent, il a peut-être besoin d'aide?
Alors ça, c'est, je dirais, le plus compliqué. Déjà, une des choses primordiales, ça va être à l'écoute des difficultés de la personne, favoriser la parole au maximum, le soutien, la bienveillance aussi, c'est montrer à la personne qu'on s'intéresse à elle, qu'on s'inquiète aussi pour elle. Pas forcément spécifiquement parler du produit en lui-même. J'ai vu que tu consommes de l'alcool, t'as vu, t'es complètement déchiré, complètement défoncé. On peut peut-être tourner les choses différemment. Et tout simplement, en modifiant un peu le message et comment on le dit, peut-être que la personne, elle va commencer un peu un cheminement, elle va peut-être commencer à l'entendre. C'est primordial, c'est surtout aussi d'aller à son rythme, pas précipiter les choses, éviter le jugement, les reproches, et puis peut-être aussi éviter de dire que nous, on sait ce qui est bon pour elle. Parce que, qui on est? Qui on est? On est d'accord que oui, c'est pas tip-top au niveau santé, etc. Mais ça peut être pas mal de pas se positionner en tant que sachant. Qu'on soit professionnel ou pas, hein, d'ailleurs. Hein, mais moi, je sais ce qui est bon pour toi. Personnellement, si quelqu'un vient nous dire ça pour ce sujet ou autre chose, je ne suis pas certaine qu'on le vive très très bien. On peut par exemple laisser des coordonnées d'associations, de structures qui peuvent aussi venir en aide, mais comme on disait tout à l'heure, et je sais j'insiste lourdement là-dessus, mais c'est ne pas forcer la personne à arrêter, à modifier son comportement. C'est essayer doucement de l'amener à ce qu'elle se rende compte que ses consommations, ça n'aide pas à oublier durablement les choses, à régler les problèmes, peut-être même le contraire. C'est plutôt être à l'écoute, cibler ces problèmes-là, et après, oui, on peut peut-être aborder pourquoi tu as ces problèmes-là, et qu'est-ce que tu fais pour essayer de les régler. Et là, on abordera peut-être le produit, mais pas forcément se cibler là-dessus, en tout cas.
Ça pourrait être contre-productif, même, j'ai envie de dire. Si on insiste trop, qu'on est dans le reproche ou le jugement, la personne peut se braquer, finalement s'isoler et continuer, et on n'aura pas fait passer de message, en fait.
Eh bien, merci donc Isabelle Demanger et Madame Mazière d'avoir répondu à nos questions. Au revoir, à bientôt sur BAC FM.
Merci, au revoir.
Merci.